Olivier Tabussette, vous allez, le psychiatre qui nous aime, vous allez parler d'un sujet difficile, enfin difficile en tout cas important, le burn-out, ce terme un petit peu galvaudé, le burn-out des aidants, une réalité tangible et malheureusement fait beaucoup de dégâts.
Oui, ça fait à peu près 30 ans que je suis des malades d'Alzheimer en tant que psychiatre. Et il y a déjà une trentaine d'années, le concept de burn-out des aidants était un concept qui était largement répandu dans le monde de la recherche et des publications sur Alzheimer. Mais ça restait limité à Alzheimer. Aujourd'hui, tout le monde sait que signifie le burn-out, et pour la grande majorité d'entre nous, c'est plutôt dans le milieu professionnel que le burn-out se manifeste. Le terme, c'est effectivement un petit peu galvaudé, comme le dit Nancy, mais ça ne veut pas dire que ce burn-out n'existe pas dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Et pour tout vous dire, donc, c'est au départ, dans le cadre de la prise en charge d'un malade d'Alzheimer, que les chercheurs ont identifié cet état psychologique qu'ils ont qualifié de burn-out. La traduction littérale de burn-out, c'est se consumer. C'est les gens qui se consument dans cette prise en charge qui est à ce point difficile, aussi bien sur le plan physique que psychologique, financier, social. Donc c'est de ça dont il va être question aujourd'hui. Je vais vous faire une petite description rapide du burn-out, vous dire pourquoi il y a burn-out et ensuite vous donner quelques pistes pour éviter le burn-out, ce qui me paraît le plus important. Donc on l'a vu tout à l'heure, hein, ma présentation, 5 millions d'aidants familiaux. Donc si vous additionnez le nombre de malades, c'est-à-dire on arrive à 6 millions et quelques, cela veut dire que vous avez 10% de la population française qui est touchée au quotidien par la maladie d'Alzheimer. Vous imaginez ce que ça représente. Ces aidants, qui sont-ils? Eh bien, c'est essentiellement la famille. Après, vous avez les professionnels, mais c'est vraiment la famille qui est au premier plan, et c'est elle qui va vraiment être indispensable pour aider les patients. L'âge des aidants familiaux, vous voyez qu'ils sont 60% à avoir plus de 60 ans. Ce sont souvent ce qu'on appelle dans notre jargon les générations sandwich. Ils sont pris en sandwich entre des parents âgés en perte d'autonomie et des enfants qui cherchent à gagner leur autonomie. Et ils font le grand écart. Et c'est très compliqué. Quand on regarde de plus près, ça ce sont les résultats de l'enquête dont je parlais tout à l'heure, hein, les 10 000 personnes interrogées avec notre temps. Vous voyez que les motivations sont essentiellement altruistes. Vous avez aussi un certain nombre de gens qui font les choses par devoir, en réalité de moins en moins. Les gens le font ou parce qu'ils ont beaucoup reçu et ils veulent donner, ou parce qu'ils sont dans cette approche très altruiste. Mais j'ai aussi constaté que les personnes en perte d'autonomie qui ne sont pas visitées sont, pour certaines, pas toujours, c'est pas systématique, les gens qui, lorsqu'ils étaient plus jeunes, n'avaient peut-être pas pu aider comme l'entourage l'attendait, les enfants et les petits-enfants. Donc il y a vraiment aujourd'hui, on est clairement là-dedans, on n'est plus dans le devoir, on est dans la réciprocité. Donc si vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants vous aident, si par malheur vous êtes en perte d'autonomie psychique liée à Alzheimer, occupez-vous d'eux sérieusement. C'est un investissement avec un retour sur investissement qui n'est pas terrible. Hein. Faut pas en attendre des miracles. Donc, mais il est là. il est réel. Et si on n'a pas investi, ben, il n'y aura pas de retour sur investissement du tout. Et vous voyez que le temps consacré est quand même considérable. Hein, considérable. Les gens vraiment passent énormément de temps à s'occuper de leurs proches. L'impact est lui aussi très important. Et là où on voit que c'est le plus important, c'est l'impact psychologique. Vous voyez, sur le moral, c'est vraiment là où l'impact est le plus élevé. Vous avez ensuite, pour ceux qui n'arrivent pas à lire, qui sont au fond, paroles d'importance. On a la relation avec l'aidé, la situation financière, la vie de famille. L'impact, c'est 40%, il y a une conséquence négative. Les loisirs, la forme physique, le sommeil et le moral. Donc le sommeil et le moral sont les deux domaines dans lesquels il y a le plus d'impact. Alors pourquoi est-ce qu'il y a danger de burn-out quand on est un aidant? Là, j'ai identifié un certain nombre de causes. Elles sont, c'est pas une liste exhaustive, je suis sûr qu'on peut en trouver d'autres, mais on va dire que ce sont les causes principales. La première, c'est évidemment la question de la charge qui est difficile, la charge à porter de ce patient qui est en perte d'autonomie, avec notamment cette notion, ce que nous décrivons dans notre jargon comme le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est une métaphore, mais je pense qu'il est assez clair, qui décrit bien cette situation où, en fait, on doit faire le deuil, on va dire, social, psychologique, de la personnalité d'un individu qui, biologiquement, est toujours vivant. Donc, il est vivant biologiquement, mais il est mort sur le plan de la relation qu'on a pu avoir avec lui. Et c'est très compliqué. Là aussi, ce qui est compliqué, c'est que c'est une maladie qui évolue de manière inexorable. Donc, le docteur Genton nous a dit que peut-être qu'un jour, ça ne sera plus le cas, mais pour l'instant, on est malheureusement obligé d'affronter cette réalité. C'est une maladie qui nous touche 24 heures sur 24. Il n'y a pas de répit. Sauf si on l'organise, on va en parler, mais c'est aussi ce qui fait vraiment la spécificité d'Alzheimer, c'est qu'il n'y a pas de répit. Les gens qui ont un proche avec Alzheimer, eh bien, ils sont tout le temps sur le qui-vive. Ils sont toujours à se dire qu'est-ce qui va se passer, ils attendent toujours un coup de fil pour qu'on leur dise il y a tel ou tel pépin. C'est compliqué. Ça entraîne un isolement des proches, on se sent prisonnier, et ça coûte un bras. Hein, le maintien à domicile, c'est très coûteux. Alors, je ne sais pas comment c'est à Nice, mais à Paris, si on veut maintenir à domicile une personne 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est un budget minimum de 6 à 8 000 euros par mois. Oui. Donc peut-être qu'ici, c'est un peu moins, mais... à peine.
Ah, c'est autant chez nous. Ok.
Quelqu'un me dit à peine. Donc vous voyez, c'est une contrainte financière considérable. Comment donc repérer le burn-out? Comment identifier la problématique chez quelqu'un? Parce que ce qui est très particulier avec la prise en charge des malades et des familles qui sont touchées par cette pathologie, c'est que eh bien, dans un nombre non négligeable de cas, les aidants sont épuisés et on a toutes les peines du monde à les convaincre qu'ils ne vont pas bien. Ils sont dans une espèce de spirale qui les engloutit. Et ils n'arrivent plus à voir la réalité, c'est l'entourage. Les enfants disent « Maman, tu devrais arrêter, repose-toi un petit peu », mais maman, non, continue inexorablement, avec le risque qui est de tomber malade et en réalité d'abandonner son patient. Les statistiques indiquent qu'à peu près un aidant sur deux décède avant le patient. Oui. Et notamment du fait de ce burn-out, ou du moins de cette fatigue, de ces difficultés dans le maintien à domicile. Donc il y a d'abord l'état de fatigue qui est intense et chronique. Ça, c'est tout à fait caractéristique du burn-out. Hein, la personne se plaint de cette fatigue. Elle n'en peut plus, elle est épuisée. On observe également quelque chose qui est un petit peu paradoxal, c'est que cette personne qui surinvestit la relation, ou en tout cas qui fait ce qu'elle peut, eh bien, petit à petit, se sent un peu détachée. Elle n'arrive plus à s'investir. Elle fait les choses un peu par automatisme. Elle fait les choses parfois un petit peu par devoir. On a une métaphore dans notre jargon, on parle d'anesthésie affective. Je crois que ça, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et puis, cette même personne qui est dans un état de burn-out, eh bien, va avoir tendance à s'auto-déprécier. On aura beau lui dire, mais maman, c'est extraordinaire tout ce que tu fais, repose-toi. Non, c'est jamais assez, elle pense qu'elle ne fait pas comme il faut. Elle est souvent donc à critiquer ce qu'elle fait en imaginant que ce n'est pas utile, que ça ne fonctionne pas. Alors, non, pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Quelles sont les conséquences du burn-out ? Les conséquences, elles sont inéluctables, ou en tout cas, elles sont très vraisemblables, et il y a un vrai danger à se trouver dans cette situation, parce que il y a non seulement une dégradation de l'état de santé, de l'aidant, bien sûr, mais en fait, comme il forme un binôme indissociable, aidant-aidé, quand l'aidant va mal, l'aidé va pas bien non plus. Et parfois, vice-versa. Et puis, il y a également une dégradation de la relation aidant-aidé. Et là, on parle notamment de la maltraitance. Vous savez que la maltraitance auprès des personnes âgées est une réalité dans notre pays, qui est souvent sous-estimé. On parle de maltraitance régulièrement dans les EHPAD, et si on parle de cette maltraitance, parce qu'elle existe en effet, souvent tout simplement du fait d'équipes qui sont épuisées elles-mêmes au bord du burn-out, et aussi parce qu'on les repère dans les EHPAD. Mais 80% de la maltraitance auprès des personnes âgées se déroule à domicile, dans un silence complet, une omerta même. Et une des causes majeures de cette maltraitance à domicile vient justement des troubles cognitifs de l'aidant ou de l'aidé, ou des deux. Mais si vous êtes l'aidant d'une personne qui a des troubles cognitifs, que cette personne finit par vous épuiser, vous ne pouvez plus être un aidant avec le recul nécessaire, avec l'empathie nécessaire, vous êtes vite épuisé, vous devenez facilement agressif, irritable, et vous pouvez devenir, malgré vous, maltraitant. Donc on voit très souvent, dans les cas de maltraitance à domicile et voire aussi en institution, il y a toujours quelqu'un dans le dispositif qui est atteint d'une pathologie neurodégénérative et quelqu'un qui est au bord du burn-out ou qui est totalement épuisé, voire déprimé. Donc il faut tenir compte de ça, c'est une manière de prévenir la maltraitance. Comment faire face au burn-out ? Il faut reconnaître son état, ça c'est important, et puis il faut accepter ses limites. Et ça, ça paraît simple, et en réalité, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que quand on regarde de près cette dynamique aidant-aidé, on se rend compte qu'elle répond souvent à des nécessités qui ne sont pas toujours très claires. Elle répond souvent à des besoins plus ou moins conscients d'aider de se montrer irréprochable, d'être un personnage exemplaire, et qui fait que cette personne, malgré les signaux d'alerte qui peuvent être envoyés par l'entourage, refusera obstinément de se faire aider. Tel mari, qui n'a pas toujours été très honnête avec sa femme, voudra réparer ses petites erreurs, ses petits coups de canif dans le contrat, en étant un mari exemplaire jusqu'à abnégation totale qui entraînera le burn-out. Et les enfants auront beau lui dire « Papa, il faut vraiment que tu te reposes », il n'entendra rien. Telle fille qui ne s'est pas sentie aimée par tel ou tel de ses parents va surinvestir la relation, parfois au détriment de sa vie de famille, de son mari, de ses enfants, et peut-être même ira jusqu'à la catastrophe conjugale, tout simplement parce que, plus ou moins consciemment, elle voudra absolument qu'un jour son père ou sa mère lui dise qu'elle est aimée et qu'elle est formidable, parce qu'elle ne l'a pas entendue lorsqu'elle était plus jeune. Je vous donne des exemples un petit peu caricaturaux, mais qui sont pas rares, et il y a toujours dans la dynamique familiale autour des aidants, il y a rarement un aidant, il y en a toujours deux, trois. Souvent, c'est compliqué. Parfois, on se déchire un peu. Il faut toujours regarder d'assez près ce qui se passe parce que cette dynamique répond des exigences, répond à des histoires qui sont parfois très lointaines, enfouies, et qui, au fond, ressurgissent parfois à l'insu même des membres de la famille. Ils ne comprennent pas pourquoi ils s'engueulent, mais ils s'engueulent tout le temps autour de la prise en charge de maman. Alors que ce n'est pas si compliqué, mais en réalité, quand l'un dit blanc, l'autre va dire noir systématiquement, parce qu'il va réparer ou il va compenser quelque chose de son enfance où il se sentait écrasé par son aîné, etc., etc. Donc, c'est compliqué, ces dynamiques aidant-aider. C'est très passionnant quand on est un professionnel, mais il faut en être conscient et soi-même, quand on est dans la famille et qu'on a l'impression que ça devient indéchiffrable, que c'est un sac de nœuds et que, au fond, tout ça se fait un peu au détriment de la prise en charge des parents ou du proche qui a besoin d'aide, on prend un peu de recul, on se fait aider par des professionnels. C'est là où, justement, je termine par « il faut se faire aider ». Quand on n'y arrive plus, il faut se faire aider. Et aujourd'hui, en France, il y a des ressources, il y a autour de nous des réseaux qui peuvent nous aider d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, certaines ont un coût, d'autres n'ont pas. Et en fait, il y a plus de choses qu'on ne croit. Souvent, on manque un peu d'informations, mais on peut se faire aider. Vous avez le réseau associatif. France Alzheimer organise des tas de choses tout à fait passionnantes dans ce domaine, des groupes de parole, des aides individuelles, pour justement ces aidants qui ne voient plus très clair, qui se sentent épuisés. Les dispositifs, voilà, je vous en parlais, ils existent. Vous avez des services de maintien à domicile, ça tout le monde connaît, malheureusement qui ont un coût. Vous avez également des structures de répit. L'idée, c'est de proposer aux patients d'aller se reposer ou d'aller en tout cas dans une institution qui pourra l'accueillir pendant un temps donné. Le temps doit être quand même un minimum parce que pour l'aidant, comme pour l'aider, il faut que les deux s'adaptent et puissent se reposer. Donc dire « on va mettre papa dans un EHPAD pendant une semaine » n'a pas de sens. Si papa doit aller dans un EHPAD pour que maman se repose, il faut que ça soit au moins 3 semaines. Le temps que papa s'intègre, que papa puisse trouver ses marques, il faut 3 semaines. Et pour que maman se repose, il faut aussi qu'elle prenne un petit peu de temps. Donc les structures de répit existent, il y en a de toutes sortes. Il y a également des accueils de jour qui sont très, très efficaces. Je suis sûr que vous en avez aussi sur la ville de Nice.
Absolument.
Et ça, c'est très, très bien.
Notamment France Alzheimer, qui est là au fond de la salle.
Voilà. Bon. France Alzheimer fait un boulot remarquable. Donc, il faut ne pas hésiter à faire appel à eux. Il y a quelque chose d'assez amusant. Peut-être vous ne savez pas ce que ça veut dire. Le baluchonnage. Le baluchonnage, c'est quelque chose qui nous vient du Québec. Et le principe, c'est qu'au lieu que ce soit le patient qui quitte son domicile pour aller dans une institution, c'est l'aidant qui quitte son domicile pour aller se reposer chez un proche ou à l'hôtel, et c'est une personne extérieure qui vient remplacer l'aidant dans le domicile. Donc le patient, lui, ne quitte pas un lieu de vie familier, et c'est un aidant de substitution qui vient s'installer. Et parfois, ça marche extrêmement bien. Action de resocialisation, voilà, vous avez toutes sortes de choses. Et puis, surtout aussi, la formation des aidants. C'est tout à fait indispensable. Nos patients Alzheimer, ils ont un langage, ils ont des codes.
Juste le temps que l'intervention finit. Non, j'appelais juste un peu de silence pour vous. Écoutez la fin de votre présentation.
Oui, oui, j'ai fini. Je ne sais pas si je dépasse un peu mes horaires.
Bon,
j'ai fini. Mais ce qui est important, c'est que on comprenne bien, et je suis sûr que ceux qui vivent ça au quotidien comprennent ce que je vais dire, nos patients atteints de maladie d'Alzheimer n'ont plus les mêmes codes qu'avant. Ils n'ont pas nos codes à nous. Ils ont une perte de repères dans le temps, dans l'espace. Ils ont des levées d'inhibition. Ils ont des difficultés de langage. Et donc, il faut rentrer dans leur univers. Il faut vraiment pénétrer dans l'univers du malade Alzheimer pour pouvoir comprendre ses demandes et pour pouvoir donc l'aider et éviter donc la surenchère de troubles du comportement qu'on peut observer de temps en temps. Dans la grande majorité des cas, ces troubles du comportement sont sous-tendus par de l'anxiété ou de la dépression. Nos patients sont anxieux parce qu'ils sont stressés. Ils sont stressés parce qu'ils ne comprennent plus l'univers dans lequel ils se trouvent. Ils ne savent plus très bien qui est cette personne qui vient leur proposer de faire une toilette. Ils ne savent plus très très bien quel est cet appartement dans lequel ils habitent depuis 30 ans, mais qu'ils ne reconnaissent plus. Qui est cette personne qui s'adresse à eux et qui semble être familière, mais qu'eux n'identifient pas. Qu'est-ce qu'on leur dit, etc., etc. Donc il faut vous imaginer qu'ils sont parfois dans des situations d'une personne, ça serait un Chinois qui serait tout d'un coup balancé dans cette pièce, qui ne saurait pas qu'est-ce qu'il fait ici, qu'est-ce qu'on raconte, et qui évidemment se demanderait qu'est-ce que je deviens, et on deviendrait facilement anxieux à sa place. Eh bien c'est ça, hein, nos patients Alzheimer, ils sont souvent anxieux parce qu'ils ne comprennent plus. Ils ont perdu leur faculté adaptative. Donc notre rôle à nous, c'est de nous adapter à eux, d'entrer dans leur univers, d'apprendre à comprendre leur nouveau langage, leur nouveau code, et les rassurer. Dès lors que vous avez compris ça, eh bien, vous allez voir qu'une grande partie des difficultés vont disparaître. Je ne dis pas toutes, mais une grande partie. Voilà.
Merci
de votre attention.
Merci infiniment pour cette belle présentation. Je vais avoir peut-être le privilège de vous poser la première question. Ça rejoint presque le dépistage. Excusez-moi, cette question est peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'on est allé trop loin dans le maintien à domicile? Est-ce que effectivement on voit qu'on institutionnalise les patients, les personnes de plus en plus tard? Les pouvoirs politiques ont, je dirais, un peu forcé le maintien à domicile, mais en maintenant des personnes à domicile le plus longtemps possible, elles ont participé à ce fléau que vous décrivez, c'est-à-dire maintien en domicile, ça veut dire des personnes, des proches qui continuent d'aller très longtemps auprès de ce proche. Est-ce qu'on est allé trop loin là-dedans et qu'on a pris des risques que des
Alors,
personnes
s'épuisent? Alors moi, je ne répondrai pas en disant qu'on est allé trop loin. Moi, je dirais qu'il est important de... Il n'y a pas des malades Alzheimer qui sont tous pareils, ils sont tous différents. Et il faut pouvoir analyser au cas par cas la situation en étant autonome. En d'autres termes, en ne se sentant pas piégé par un certain nombre de lieux communs.
La culpabilité?
Oui, mais je commence déjà par les lieux communs, qui sont l'EHPAD bashing, dans lequel on est abreuvé depuis des années, où on ne parle que ce qui ne va pas dans les EHPAD. Il y a eu notamment ce fameux livre, etc. Bien sûr qu'il y a des progrès à faire dans les EHPAD, mais on a fait, et moi je connais cet univers très très bien, ça fait 30 ans que je le fréquente, je peux vous dire qu'il y a d'énormes progrès qui ont été faits. On peut faire beaucoup mieux encore. Mais tous les EHPAD ne sont pas à jeter, loin s'en faut. S'il y a des erreurs, elles existent, elles sont humaines, mais elles représentent une minorité. Vous avez beaucoup d'EHPAD qui font ce qu'ils peuvent et qui font assez bien leur job. Donc surtout, ne pas exclure de manière systématique les EHPAD. Donc on reste autonome. Peut-être que c'est une solution. Ça, je dirais, c'est une première chose. Deuxième chose, on se sent parfois piégé par ses propres parents, à qui on a promis, quand ils étaient autonomes, de ne jamais les mettre en EHPAD.
C'est ça.
Ne jamais promettre ce genre de choses.
Mais quand c'est trop tard.
Ne promettez pas ce genre de choses. Répondez à côté ou dites, bien sûr, je ferai de mon mieux. Voilà. Je ferai de mon mieux. Mais parce que il y a des moments où on n'a pas le choix. Et effectivement, vous avez parfois des situations où le maintien à domicile est préférable à l'institution. Dès lors que il est de qualité, qu'on trouve les bons professionnels pour la bonne prise en charge.
Et qu'on a 8000 euros.
Et qu'on a peut-être pas, parce que parfois c'est tout simplement un couple, et là ça va très bien, monsieur est assez calme, voilà, et on arrive à faire des choses très très bien à domicile. Mais le maintien à domicile peut aussi être un enterrement de première classe. Pour le patient comme pour son conjoint. Et donc, il ne faut pas se cramponner à cette idée que jamais je mettrai papa, maman, ma sœur dans un EHPAD. Jamais je proposerai l'accueil de jour. Il faut tester toutes les hypothèses en étant autonome par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait. Il faut expérimenter, aller vers, se renseigner auprès de France Alzheimer. Eux, ils savent. C'est leur métier. Ils ont tous les retours d'expérience et ils peuvent vous dire, eh bien non, peut-être vous pouvez tester ceci, cela, etc.
Le psychiatre, comment être soulagé de sa culpabilité quand on fait ce choix pour un proche? Voilà, ça c'est le psychiatre qui peut nous répondre.
Oui, le psychiatre peut vous répondre, mais évidemment je ne vais pas vous répondre en deux minutes.
Bien sûr
que la culpabilité est omniprésente et s'en débarrasser, ça prend du temps. Mais je pense qu'il faut déjà l'identifier. Il faut déjà l'identifier. Parce que vous avez des gens qui se sentent coupables et qui ne savent pas très bien, au fond, comment ça s'exprime chez eux. Je vous donne juste un petit exemple. Vous voyez dans les EHPAD, parfois, dans les premières semaines qui suivent l'admission, des familles extrêmement exigeantes, très au-delà de ce qui est attendu. Elles font des bagarres sans fin pour les petites culottes qui se perdent, pour le rouge à ongles qui n'est pas parfaitement à sa place, etc. Et on finit par se dire, mais que se passe-t-il? Pourquoi, alors que madame va pas mal, qu'elle s'est bien adaptée, pourquoi elle se cramponne à ces détails? Mais tout simplement parce qu'ils règlent leur culpabilité. Dans leur esprit, dès lors que maman est placée dans un EHPAD, et que pour moi c'est épouvantable, Je faillis à mes engagements, je me sens extrêmement coupable. Alors cet EHPAD a intérêt à être le meilleur du monde. Et si ce n'est pas le meilleur du monde, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vérifier tous les jours que c'est parfait. Et on en oublie la réalité, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout le vécu du patient qui, lui, se fout complètement de savoir s'il met la petite culotte d'un autre. Hein? Bon, eh oui. Mais c'est ça la réalité.
C'est dur, mais c'est une réalité.
Mais c'est ça la réalité.
On peut en rire, c'est un rire un peu.
C'est ça la réalité. Donc voilà ça. Et oui, la culpabilité, elle est omniprésente. Il faut l'identifier. Il faut savoir aussi jouer avec. Quand je dis jouer, c'est-à-dire la comprendre. Il y a aussi un autre phénomène qui est très caractéristique de la culpabilité dans le maintien quand on est à domicile. Et c'est cette espèce de spirale infernale dans laquelle s'enferment parfois les dents. Qui est j'ai été maltraitant parce que j'étais fatigué, j'étais épuisé, j'étais maltraitant. Donc je me sens coupable. Donc je vais redoubler d'efforts auprès de mon proche. Redoublant d'efforts, je me sens épuisé et je deviens maltraitant. Et vous voyez, la boucle se referme. Et on voit bien que pour casser ça, il faut traiter la culpabilité. Il faut dire aux gens à domicile que vous n'êtes pas parfait, que c'est extrêmement difficile, que vous avez le droit de vous tromper, que de temps en temps, vous pouvez vous fâcher, mais qu'il faut faire de votre mieux et peut-être vous faire aider quand c'est nécessaire.
Monsieur.
Oui, bonjour. Si on n'a pas les moyens de mettre quelqu'un en EHPAD parce que ça coûte cher, ou de maintenir à domicile, est-ce qu'il y a d'autres solutions?
Alors, le magicien n'y est pas.
Alors, oui, vous avez l'aide sociale. Vous avez des EHPAD qui accueillent des patients dits à l'aide sociale.
Oui, on en a beaucoup dans le département, il faut dire. Hein,
donc, où là, eh bien, vous êtes accueillis à un coût nul, voire extrêmement limité, avec peut-être ce petit bémol, c'est que si ce monsieur a des héritiers, on se retournera sur les héritiers pour régler la note.
Bon. Un cadeau empoisonné, absolument.
Ce qui peut poser un problème.
Madame, s'il vous plaît, au fond de la salle. Oui.
Oui, bonjour.
Excusez-moi, qu'on entende juste les questions.
Ce patient dans un EHPAD, par exemple, est entouré d'autres patients qui lui ressemblent, bien sûr. Et la crainte, en fait, c'est est-ce que cet entourage ne peut pas lui nuire, au contraire, et l'empêcher de stopper la maladie ou pas l'empêcher, mais peut-être qu'elle évolue moins vite. Le fait d'être entouré
de personnes dans le même état avec les mêmes troubles cognitifs, voilà. Est-ce que c'est un facteur d'aggravation presque de la maladie? Vous l'opposez au domicile où effectivement il va y avoir des personnes non atteintes?
Oui, alors il n'y a pas une réponse univoque à votre remarque. À domicile, certes, on va être avec des gens plus jeunes. Mais ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, sinistre. Vous avez des domiciles où il ne se passe rien, parce qu'on ne sait pas comment prendre en charge le patient, parce que c'est compliqué, il est un peu opposant, et donc il n'y a aucune stimulation. Donc bon, pourquoi pas, il est chez lui, il est peut-être content, mais il ne se passe rien, et ça peut être même un peu déprimant pour le patient. Vous avez aussi des EHPAD, où en effet, les patients sont dans des unités dites fermées, où ils ont tous des troubles cognitifs, et où là aussi, il peut se passer rien, parce qu'on manque de personnel, parce qu'on n'a pas les motivations pour organiser des stimulations, etc. Vous avez aussi des EHPAD, où on mélange des patients avec des troubles cognitifs, et des patients qui n'en ont pas. Et ça, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer.
Pour qui ?
Pour tout le monde.
Pour lesquels ?
Pour tout le monde. Parce que il faut comprendre que quand on est assez âgé, voire très âgé dans un EHPAD, Alzheimer est terrifiant. Et si on n'a pas la maladie d'Alzheimer, si on n'a pas de troubles cognitifs, eh bien, on a extrêmement peur des gens qui en sont atteints. Et donc, ces malades Alzheimer, qui ne savent plus très bien où ils en sont, qui se trompent de chambre, sont très rapidement ostracisés. Ils sont très rapidement rejetés par les résidents qui, eux, sont encore relativement autonomes et qui n'ont aucune patience pour ces gens qui leur répètent 15 fois quel jour on est, quelle heure est-il. Et donc, ça crée des tensions insupportables. C'est une des raisons pour lesquelles on organise dans les EHPAD maintenant des unités dites fermées. Donc, ces unités fermées peuvent être une solution dès lors qu'elles sont bien animées, qu'elles fonctionnent correctement. Vous avez même maintenant des établissements où on n'accueille que des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. J'ai moi-même contribué à créer une maison, on en a deux maintenant, en région parisienne, où il y a 87 résidents, ils ont tous des troubles cognitifs, et ils vivent tous ensemble, très bien. Alors, quand il y en a un qui va dans la chambre de l'autre, ça ne pose pas de problème, puisque l'autre ne sait pas que c'est sa chambre.
Ou qui lui pique la culotte. Très bien.
Donc, tout va bien, on a d'autres problèmes à résoudre, c'est sûr, mais en réalité, C'est une réponse efficace dans certaines situations.
Mais c'est un peu la réalité aujourd'hui dans tous les EHPAD. C'est-à-dire que quand on interroge, 90% des résidents ont des troubles cognitifs importants aujourd'hui, puisqu'ils rentrent beaucoup plus tard et beaucoup plus...
Votre chiffre est un peu élevé. Je dirais 65%.
Ah, bon.
65, pas 90, 65%.
Monsieur.
Merci. Oui, simplement, si vous voulez, entre le maintien à domicile et l'EHPAD... Il y a une chose qui est en train de se rechercher le plus possible, ce qu'on appelle l'EHPAD hors les murs. Et ça, c'est un sujet qui m'a un petit peu passionné. Et je pense que là, il y a encore... De toute façon, ça avance. Mais là, il y a un très beau travail à faire.
Oui, oui. Alors, l'EHPAD hors les murs, bien sûr, il y a un très beau travail à faire. Il faut aller voir nos voisins d'Europe du Nord. Ils font des tas de trucs passionnants. Moi, je suis un militant actif et on me sollicite régulièrement pour des conférences pour développer le concept des biguinages. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Si ce n'est pas le cas, allez sur Internet, regardez. C'est tout à fait intéressant ce qu'ils proposent. Les béguinages, vous savez, ça, c'est ces trucs qui existaient au Moyen-Âge dans les Flandres. Et maintenant, vous avez... ils créent des structures comme ça qui font au fond sont des petites maisons où vous avez une vingtaine d'appartements et où les gens mettent en commun... Eh bien, leur savoir-faire, leurs expériences, etc., et décident de vivre ensemble. C'est tout à fait passionnant. Vous avez aussi dans des expériences avec des petits appartements dits thérapeutiques où les gens âgés vivent à 4 ou 5 et ils sont comme ça disposés dans la ville avec un réseau donc, d'infirmières, de médecins qui vont de l'un à l'autre et comme ça, ils restent insérés dans la cité. Ça, on voit ça au Danemark beaucoup. Donc, il y a des choses à inventer. Je suis pas sûr que ça marche extrêmement bien pour nos malades d'Alzheimer, mais ça marche bien pour ceux qui n'ont pas de troubles cognitifs. Pour les malades d'Alzheimer, on a une expérience magnifique qui est menée aujourd'hui dans le sud-ouest. Vous savez, c'est le fameux village Alzheimer qui existe dans les Landes. Bon, c'est pas mal, mais ça coûte un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un. Et donc c'est bien, mais c'est expérimental, ça ne marche pas, je ne suis pas sûr qu'on puisse inventer ça, le décliner comme ça. Mais ce sont des idées intéressantes. Et donc il faut inventer des nouveaux concepts, il faut inventer des nouvelles formes d'accueil.
Olivier Delanoucette, peut-être une dernière question parce qu'il faut qu'on enchaîne.
Absolument.
Est-ce que si l'on crée une relation monétaire entre les deux, à partir de... Si on commence à défrayer les aidants, sachant qu'eux-mêmes soulagent le système de santé parce que finalement, ils pallient les manques. Est-ce que vous pensez que ça modifiera les relations aidés-aidants et pourquoi pas, peut-être, finalement, professionnalisant quasiment cette aide, cela pourrait prévenir ce que vous désignez. Voilà, c'est un peu une boucle, mais... Effectivement, on sait aujourd'hui que sans les aidants, le système s'écroule. C'est des heures par jour que jamais le système de santé ne pourra assumer, le système médico-social. Ça vous laisse perplexe. Pourtant, la question a été posée.
Oui, ça me laisse perplexe parce qu'on voit bien, on n'a pas un rond, c'est
oui,
beaucoup d'argent ce qu'il fait.
Mais sans
beaucoup,
on fait
beaucoup
rien.
D'argent. Ce que je sais, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cette filière-là, la filière gériatrique en France, la filière du grand âge, est en crise. Oui. On ne recrute pas parce que les gens sont très mal payés. Et parce que les gens sont très mal payés, on ne recrute pas. D'accord ? Et donc, on voit très bien que ça n'attire pas. Ça n'attire pas. Il y a un problème de considération. Ces métiers-là ne sont pas considérés.
Il y a plein d'aidants gériatres en herbe.
Pardon ?
Plein d'aidants gériatres en herbe.
Mais plein. Mais, et donc, il faut évidemment revaloriser ces métiers, expliquer l'intérêt de ces métiers, mais aussi probablement augmenter les salaires. Augmenter les salaires, c'est trouver de l'argent. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas développé davantage ce qu'on appelle l'assurance dépendance, qui existe en Allemagne, qui est obligatoire. Alors vous me direz, c'est un impôt de plus. Donc on ne va peut-être pas prendre le système allemand, mais on va quand même y réfléchir, non pas à votre génération, mais aux générations beaucoup plus jeunes, peut-être en faisant appel au système assurantiel privé. Pourquoi est-ce qu'on s'assure contre le risque d'un accident d'auto et qu'on ne s'assurerait pas contre le risque de la dépendance. Si on commence très jeune, à 25-30 ans, ça ne coûte pas grand-chose tous les mois et ça vous permet, quand vous atteignez 80 ans, d'avoir une couverture qui permettra peut-être de payer une grande partie de cette dépendance. Donc ça, c'est des solutions. Il y en a sûrement d'autres, mais il est clair qu'il va falloir revaloriser cette filière gériatrique qui n'est pas du tout, elle est pas du tout, on va dire, valorisée. Les gens ne sont pas payés comme ils devraient pour venir en aide aux plus âgés.